En fait, j'avais prévu de commencer ce moment-là par en chantant un joyeux anniversaire. Après, on ne va peut-être pas le faire, mais parce que c'est l'anniversaire de l'église. Je me dis, c'est sympa, un joyeux anniversaire. Hein. Vous voulez chanter joyeux? On chante joyeux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, l'église. Joyeux anniversaire! Bah, Robin, tu chantes pas, ça? Ça, vous savez les paroles, quand même. Hein. Mais effectivement, c'est l'anniversaire de l'Église, hein, la Pentecôte. Le début, sauf que ça ne s'appelait pas encore comme ça, mais ce n'est pas grave, c'est venu après. Alors, je suis un peu embêté parce que ce n'est pas la première fois, Sam me pique toujours mon message quand il fait l'introduction. Alors, après, je n'ai plus rien à dire. Alors. On va lire quand même ce texte qu'il a cité et reprendre plusieurs choses. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient: voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendons s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes Juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, disaient-ils, ils ont trop bu. » Alors Pierre se leva, entouré des onze, et d'une voix forte, il dit à la foule: écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Plein de petites choses intéressantes dans ce texte, hein, quand ça a commencé. La première phrase que j'ai lue, quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. C'est simple, hein, mais ils étaient tous rassemblés au même endroit. Ça ne pouvait pas se passer s'ils étaient tous dispersés, pas au même endroit. Aussi bête que ça. L'Église est une communauté et ça se passe parce qu'ils étaient là. Mais surtout qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Hein. C'était une fête juive, mais quand on lit les passages avant, on voit qu'après que Jésus soit parti les abandonner, ils avaient pris l'habitude de se retrouver tous les jours, tous ensemble, et ils attendaient quelque chose, mais ils ne savaient pas quoi. C'est très intéressant, surtout dans un pays comme ici, où il faut toujours qu'on ait des plans faits pour tout à l'avance. Hein. Imaginez que vous montiez une nouvelle association, vous envoyez des invitations à vos amis. Alors on va se retrouver, on sait pas pourquoi faire, hein, mais on va se retrouver ensemble et on va attendre qu'il se passe quelque chose. À mon avis, on vous dit bon, allô Georges, il te reste des places. Non, on fait d'abord un plan, comment ça doit se passer, où, avec qui sera le chef, le trésorier, le secrétaire, voilà, quels sont les projets, les buts à atteindre pour la prochaine année. Alors oui, ils avaient des choses en commun, hein. Ils avaient passé quand même 3 ans à essayer de comprendre Jésus sans rien comprendre, ça c'était un de leurs points communs. Ils étaient tous déçus parce qu'il était parti et puis ça ne s'était pas passé comme ils voulaient. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce groupe qui se rassemblait, ils avaient tous des attentes différentes en fait, hein. Ce n'est pas parce qu'ils étaient tous ensemble qu'ils étaient tous pareils. Il y a ceux qui attendaient qu'un nouvel empereur vienne rassembler le royaume, comme à l'époque de David et de son fils. Il y a ceux qui étaient un peu plus mystiques, qui espéraient qu'il se passe quelque chose. Il y avait ceux qui venaient là parce qu'en fait, il n'y avait pas que des hommes, il y avait aussi des femmes. Hein. Donc il y a ceux qui venaient là parce qu'ils aimaient bien Myriam et que ben, dans les réunions de prière, quand on était assis à côté, qu'on se donne la main. Non, ils ne faisaient pas ça. Mais ça me fait quelque chose. Et puis, chacun était là pour des raisons particulières. Mais en tout cas, ils étaient là, tous ensemble, au même endroit. Et je trouve que c'est bien parce que c'est vrai que moi j'ai souvent entendu aujourd'hui, franchement, à quoi ça sert de se rassembler ? On a Internet, on a des téléphones, on a Skype, on a tout ce qu'il faut, on peut très bien écouter les messages chez nous, on met un CD de louange, ça chante mieux que nous. On écoute un message, l'avantage c'est que quand il nous gonfle, on peut mettre en pause pour aller faire un tour, ou on peut passer en accéléré. Il n'y a que des avantages. Sauf que, par essence, l'Église, c'est des gens qui sont rassemblés. Alors, pas forcément le dimanche matin, pas forcément de 10h à midi, pas forcément dans un local particulier. Hein. Notez bien qu'il n'y avait pas, il y avait pas de cloche là, ce jour-là. Il n'y avait pas de clocher, il n'y avait pas de... Ils étaient dans une pièce qui était assez grande pour les contenir, et je ne sais pas comment ils faisaient, parce qu'ils étaient plus d'une centaine. Hein. Donc ça faisait quand même une grande pièce, peut-être c'était sur une terrasse, une chambre haute, ça peut être ça. Mais ils étaient tous ensemble, et puis tout d'un coup, ben voilà, qu'est-ce qui se passe ? Il y a du bruit, des choses bizarres qui se passent. Et il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le programme de l'Église, en fait, ou plutôt la naissance de l'Église, l'origine de l'Église, mais le vrai programme de l'Église, c'est ça. C'est des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Il faut réaliser que jusqu'à ce moment historique, cette Pentecôte-là, parce que la fête de Pentecôte, c'était une fête juive, donc elle existe depuis qu'il y a la Pâque. Hein. Ça faisait déjà 2000 ans qu'elle existait, la Pentecôte. Mais celle-là, celle où l'Église a commencé, il s'est passé quelque chose qui ne s'était jamais passé sur Terre avant. Jusqu'à ce moment-là précis, lorsque Dieu travaillait avec un être humain, même s'il lui accordait une onction spéciale, comme ça a été dit dans l'introduction, hein, avec Élie et Élisée qui avaient le double de l'autre, David dit « Ne me retire pas ton onction, ton esprit saint ». Donc, Dieu donnait à des gens pendant un moment l'accompagnement de son esprit pour une tâche. C'était pas acquis, c'était que pour quelques rares personnes. Hein. Et ça pouvait être pour un moment, simplement. Et là, il se passe une chose absolument extraordinaire. Nous, on ne réalise pas. On a l'impression que c'est normal, ou je ne sais pas, on ne se rend pas compte. Mais c'était un basculement historique. Le Saint-Esprit vient remplir tous les croyants. Et puis, il vient en eux, et il reste là, et il ne partira plus jamais. Et ça, c'est quelque chose on a du mal à mettre des mots dessus parce que c'est une expérience qu'on a du mal à cerner. Hein. Mais l'Église, en fait, c'est ça. C'est des gens rassemblés qui ont reçu en eux la vie de Dieu par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu. Hein. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 13, il est dit, Paul parle, il dit, « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Hein. Nous avons tous été plongés, littéralement, parce que baptiser, ça veut dire plonger dans. Hein. » C'était pas du vocabulaire religieux baptisé. Hein. Si des Suisses à l'époque avaient fait une fondue, ils auraient baptisé le petit bout de pain dans le fromage, hein, et puis il aurait ressorti. C'était le mot de tous les jours pour dire plonger quelque chose dedans. Hein. Les croissants baptisent leurs croissants dans le café au lait, les Suisses leur pain dans le fromage. Et d'autres les olives dans le vin rouge, mais c'est pas un mot religieux baptisé, ça veut dire plonger, immerger quelque chose dans, hein, tout simplement. Et donc les premiers chrétiens ont été plongés dans la vie de l'esprit, hein, comme le pain dans le fromage. Quand on le ressort, ben, c'est plus le même, hein, il y a autre chose. Comprenez cette image, hein, je trouve quelque chose qui vous parle. Hein, enfin, en tout cas, bientôt 11h, l'estomac qui grogne un peu. Pas l'odeur. Mais l'Église, c'est ça. Hein, et c'est tellement triste. J'avais prévu beaucoup de choses pour ce matin et j'ai rien fait. C'est terrible. Hein. J'avais prévu de chanter ce chant. Bon, si on l'a chanté, mais pas avec la musique. J'avais prévu de vous donner des petits bouts de papier Mais je ne les ai pas coupés à temps, je n'avais pas les stylos, c'est compliqué. Pour que vous puissiez tous mettre quelques phrases sur qu'est-ce que ça vous évoque quand on dit l'Église. Hein. Et puis, ben, on sait qu'en tout cas, si on faisait ce test-là dans les rues, quelque part, pour la majorité, ça serait un bâtiment, un clocher, une couleur sombre, des femmes habillées en noir, enfin, je sais pas, un endroit où on s'ennuie, où il fait froid, tout ce genre de choses. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient écrit la vie, être plongé dans l'esprit, être ensemble, la seule alternative au monde déprimant dans lequel on vit. Mais l'Église, si ce n'est pas des croyants remplis du Saint-Esprit qui sont assemblés, ce n'est pas l'Église. Alors après, parce qu'il faut que ces gens-là vivent et qu'on vit sur Terre, bah, s'il leur faut un local, parce qu'on vit dans un pays où il pleut 6 jours sur 7, bah, il vaut mieux avoir un local. C'est pour faire réagir Virginia, pas qu'elle s'endorme au fond. Si parce que ben, on a des horaires de fou, parce qu'on travaille, il faut fixer une heure pour se retrouver, ben, on les fixe. Alors comme on a des moyens actuels, ben, on le fait, on utilise nos agendas et on fait des programmes. Mais toutes ces choses-là, c'est les vêtements qu'on met sur le corps, c'est pas le corps. Hein. Vous savez que si vous prenez les vêtements de vos enfants et vous les mettez sur un pantin de bois, ça va pas rendre le pantin vivant. Par contre, l'enfant, il a besoin d'habits, et puis des habits à sa taille, et puis ça ne sera pas les mêmes selon la saison. Hein. Donc, pour vivre l'Église, on a besoin de choses, un bâtiment, des rassemblements. Ici, j'ai un micro, il y a ce machin pour poser mes papiers, il y a des escaliers pour monter, puis ben, il y a les toilettes en bas, parce que quand on est là, ça peut servir. Et puis... Mais l'Église, ce n'est pas ces choses-là, ce n'est pas le programme, ce n'est pas le papier, c'est pas... L'Église, c'est des gens qui se rassemblent, et qui ont reçu une vie nouvelle par l'Esprit de Dieu en eux. Et là, ça se passe, mais eux, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Donc, ils sont là, et ça leur tombe dessus, dans le sens le plus littéral. Hein. Et il y a cette phrase qui suit, qui est magnifique. Hein. Donc, ils furent tous remplis, d'ailleurs. Hein. Ce n'était pas d'abord Pierre, et puis après Jacques, et peut-être quelques-uns. Attention les fils. Mais ils sont tous remplis. Donc c'est l'unité. Et la phrase d'après, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Donc unité, mais pas uniformité. Hein. Le Saint-Esprit est descendu, ils étaient tous rassemblés, ils ont tous reçu le Saint-Esprit, et ils ne se sont pas mis tous à réciter le Notre Père ensemble d'une seule voix. Non. Chacun a dit quelque chose comme l'Esprit lui donnait de le faire. Et là, on a tout le mystère et la beauté de l'Église, c'est que tous unis, tous rassemblés, et chacun est différent. C'est pas du tout incompatible. Hein. On pense toujours que pour qu'il y ait unité, il faut que tout le monde pense pareil, que tout le monde soit d'accord. Alors du coup, c'est très simple. On va vous dire comment il faut être, comment il faut penser. On s'habille d'une façon, on parle d'une façon, on pense d'une façon. Puisque c'est moi le chef, je vous dis comment vous devez faire. Maintenant, vous allez tous être chauves, et puis vous allez tous, là, et vous allez tous penser comme ça. Mais c'est triste, c'est terrible. De penser à la Pentecôte cette année, ça m'a réjoui. Je me suis dit, mais je suis bien dans cette église. Ça ressemble à ça. On est tous ensemble. On est tous remplis du Saint-Esprit, mais on est tous différents et on a le droit de l'être. Et on peut l'exprimer et ça pose de problème à personne. Ouh, ça fait du bien. L'Église a été prévue, l'Église c'est le plan de Dieu pour notre époque. Et depuis ce moment-là, Dieu n'a pas d'autre plan pour l'humanité qui va mal que l'Église. On est toujours à chercher à inventer autre chose de plus compliqué qui ne marche pas. Mais le problème, c'est que l'Église, historiquement, a très rarement été ce qu'elle devait être. Ça, c'est triste, c'est très triste. Mais ce n'est pas une raison pour la laisser tomber, parce que Dieu a choisi de ne pas la laisser tomber. Comme j'ai dit dimanche dernier, nous, quand quelque chose est cassé, on le jette, on imagine faire mieux la prochaine fois. Dieu garde le vieux truc et il répare. Ça fait 2000 ans qu'il répare son Église, c'est désespérant, mais il ne désespère pas. Et je ne sais pas comment il fait, il n'en a pas honte. Moi, c'est mon plus gros problème. Je n'ai jamais eu honte de Dieu, j'ai presque toujours eu honte de l'Église. sauf d'ici maintenant. Mais c'est vrai, je le dis sincèrement. Je suis fier de le dire. Mais Dieu, lui, il est plus courageux que moi. Il n'a pas honte de l'Église. Toute. Alors, il n'excuse pas, il n'en accepte pas les erreurs. Mais il continue de dire, hein, l'alternative ou le seul endroit où on peut vivre différemment et bien sur cette planète, c'est l'Église. C'est pas un pays, c'est pas une politique, c'est pas un système ou un autre. Après, on fait au mieux, hein, dans ces domaines-là. Mais c'est des hommes et des femmes qui sont rassemblés, qui ont reçu la vie de Dieu en eux par le Saint-Esprit, et puis qui vont manifester cette vie selon ce que l'Esprit va donner à chacun. Et vous voyez pourquoi il y a quand même un petit truc qui est encore pas tout à fait normal dans notre rassemblement du dimanche matin, c'est que chacun s'exprime, mais il n'y a que moi qui parle, quoi. Ça, c'est pas tout à fait ça, quoi. Alors, on progresse, ça vient doucement, tranquillement. Bon, on va voir, il y a aussi un moment où il y en a un qui parle. Hein. À la fin, c'est Pierre qui ouvre sa bouche et qui parle. Hein. Ils sont tous derrière. Donc, il y a aussi des moments pour ça. Mais ça ne va pas être que ça. Chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donne de le faire. Et ça, c'est. Il faut réaliser que l'Église, elle est faite. La richesse de l'Église, justement, c'est qu'elle est faite de l'expression de chacun. Et ce chacun, il est unique. Donc, quand une personne parle, c'est super, mais ça veut dire qu'il nous manque, s'il y a 1% qui parle, 99% de la richesse de l'Église ne s'est pas exprimée. Pas forcément sous la même forme, tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Hein. Mais je veux dire, chacun vit avec Dieu, donc chacun a exprimé ce que l'Esprit lui donne, d'une façon ou d'une autre. À un moment ou à un autre. Et ça c'est l'Église. Et puis, alors, ce qui est encore plus magnifique, c'est que les gens entendent ça, viennent. Hein. Pensez à tous les tonnes d'efforts qui ont été développés par les chrétiens sur comment rejoindre ceux qui ne croient pas. Hein. Avec toutes les méthodes qu'on peut imaginer, des plus créatives aux plus rébarbatives. Mais là, il se passe autre chose, c'est que c'est les gens qui entendent un truc bizarre et qui viennent voir. Ça ne se fabrique pas, ça ne s'invente pas. Quand ça se passe, c'est super, et des fois, ça ne se passe pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de réponse à ça. Mais c'est quand même assez magnifique. Moi, j'ai eu le privilège de naître à la foi dans un moment comme ça. On se rassemblait dans une maison, il n'y avait pas de panneau sur la porte, il n'y avait pas d'horaire, on ne savait pas. Et les jeunes faisaient 2-3 heures en stop pour venir frapper à la porte et disaient « On a entendu dire qu'ici on peut rencontrer Jésus-Christ. » Et à une dizaine d'années, il y a à peu près, on a baptisé environ 500 personnes, que des jeunes, qui venaient dans un rayon de 2-3 heures autour de là où on habitait, dans un village de 500 habitants dans le sud de la France, hein, avec ses deux cafés, sa place, le bistrot et puis pétanque. Ces jeunes-là partaient le samedi matin en stop pour arriver le samedi soir et puis dans le village ils demandaient, mais c'est vrai, hein. Ils allaient taper une porte, bonjour, il paraît qu'il y a des chrétiens qui se retrouvent dans ce village, vous savez où c'est? Il y avait toujours quelqu'un qui savait parce que les ragots ça allait vite, hein. Ouais, dans la rue, en plus c'était la rue droite, petite rue tordue qui s'appelait la rue droite, chez Jean et Yvette, parce que là-bas il fait beau 9 jours sur 8, donc ça se passait... Et les gens exagèrent beaucoup là-bas. Hein. Ça se passait souvent dehors. Mais et moi, je croyais que c'était normal parce que évangéliser, on ne savait pas ce que ça voulait dire dans le sens faire un effort pour. C'était quand il y a des gens qui viennent, ben on leur explique. Mais après, ça ne s'est plus passé. Je ne sais pas pourquoi et je n'ai pas pu le refabriquer à un autre moment. Mais j'ai eu le privilège de connaître ça et de connaître l'Église comme ça. Et c'était magnifique. Et là, c'est ce qui se passe. Les gens viennent. Mais enfin, par contre, ce qui après est encore plus extraordinaire, c'est qu'il est dit, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Si on pense que ça devrait être la caractéristique de l'Église, en tout cas une des premières, en général, prenez quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une église, qui n'est pas né dans une famille chrétienne, mettez-le dans n'importe quelle église un dimanche matin, et il se dit, allô la terre, iti, téléphone, maison. Il parle dans quelle langue? C'est quoi ce truc? Ils n'y comprennent rien du début à la fin. Hein. À la rigueur, ils ont déjà entendu Alléluia ou Amen quelque part. Amen, il croit que ça veut dire ça. Hein. Avec les moines autour de la table, et quand le fromage et le vin arrivent, qui font Amen, Amen. Et puis, allez où il y a, mais allez où il y a quoi, hein, on ne sait pas, quoi. Voilà. Mais ils comprennent rien. Et c'est normal. Hein, parce qu'on parle un langage, on a des habitudes, on a des traditions qui sont décalées dans le temps, dans la culture, dans l'histoire, qui n'ont aucun rapport avec la vie des gens. Or, la caractéristique de l'Église, c'est qu'ils étaient rassemblés, les premiers, j'ai accéléré. Ils arrivent et chacun comprend sa propre langue. Parce que ça, c'est la particularité de Dieu. Quand Dieu parle à quelqu'un, il parle sa langue. Et c'est ce que Sam a développé ce matin. C'est-à-dire qu'on a tous un langage secret, au-delà du fait qu'ici, on parle presque à peu près la même langue. on se comprend en tout cas. Mais on a tous une langue intime que même nos proches ne connaissent pas vraiment. Ils ont une petite idée, mais ils ne connaissent pas vraiment. Ce langage secret, ces mots qu'il n'y a que nous qui utilisons, souvent ce n'est même pas des mots d'ailleurs, hein. C'est très très personnel, et que le Saint-Esprit est le seul qui connaît, parce qu'il peut nous parler de par l'intérieur comme ça. Et ces gens-là viennent et chacun entend dans sa propre langue. C'est extraordinaire. Moi je me suis souvent posé la question, est-ce que le miracle était sur les langues ou sur les oreilles ? Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? Est-ce qu'en fait, ces gens-là, ils parlaient tous tout simplement la même langue normale, l'hébreu de l'araméen de l'époque, mais chacun, le miracle était que chacun entendait dans sa propre langue ? Ou est-ce que réellement, eux, ils parlaient, mais il semblerait quand même qu'ils parlaient différentes langues ? En tout cas, c'était des langues connues, hein ? Ce n'était pas une langue qui servirait de langage secret entre les anges. Ce n'est pas le cas ici, en tout cas. Puisque c'était vraiment... L'arabe entendait de l'arabe, le perse il entendait du perse, le mède il entendait du mède, etc., etc. Chacun entendait sa langue à lui, hein, et des langues donc connues. C'est, pour nous, ça serait des langues bizarres, mais c'est comme si ici, ce matin, on était plusieurs à être conduits par l'esprit, puis il y en a un qui parle anglais, un qui parle allemand, un qui parle italien, un qui parle le suisse romain de Tavannes, un le suisse romain de Sorvilliers, un le suisse romain de Cours. Un, le Suisse romain, deux, Moutier, et tous se comprennent. Oh, un miracle. Et ça, je crois que c'est vraiment un défi, en tout cas, pour lequel l'Église a besoin de retrouver. On doit parler le langage de l'endroit dans lequel on vit. Vendredi soir, Virginia m'a fait un très beau compliment, comme c'est assez rare, les compliments de Virginia. Je l'ai noté. Non. En public, en plus. J'étais très fier. Ah ouais, si, si. C'est ta fête aujourd'hui. T'es juste droit en face. Là, Non, non. Elle m'a dit, moi en tout cas, je suis content d'une chose, c'est que j'ai un pasteur, quand il prêche, il parle normalement comme quand il parle. C'était un beau compliment. Je pense effectivement que quand je parle avec vous, je parle comme quand je parle avec n'importe qui, dans la rue, ailleurs, avec quelqu'un. Ça me paraît une évidence en plus. Hein. J'ai du mal à comprendre pourquoi on fait autrement, mais voilà. C'est pas le sujet. Mais au-delà du mot et de, éventuellement de l'intonation pastorale, hein, que nous pouvons développer dans certains lieux précis, mes frères, mais au-delà de ce petit truc amusant, c'est surtout que Si je ne comprends pas ce que vivent les gens, parce que je suis tellement isolé dans un espèce de truc fermé avec des grosses tours où nous, dedans, les gentils, on se méfie des dehors, les méchants qui veulent rentrer dedans mais qu'on ne veut pas qu'ils rentrent mais qu'on aimerait qu'ils rentrent, c'est compliqué, on ne se comprend plus. Vous voyez ce que je veux dire ? L'Église, qui était quelque chose d'ouvert, ça se plaçait sur la place publique, ce truc-là, quoi. Il parlait avec les gens. Et puis, il y a eu tellement cette peur, ce vocabulaire hein, que je déteste, qui n'est pas biblique, hein, le monde, hein, pour parler de ceux qui ne sont pas dedans dans l'Église. C'est pas ça que ça veut dire le monde. Le monde, c'est un système organisé dans un but précis. Hein. Et donc, le monde dehors, c'est les méchants, parce qu'il faut toujours des méchants et des gentils. Nous, l'Église, dedans, on est des gentils. On a fait des grands murs, parce que ces méchants du dehors voudraient nous attaquer, voudraient nous changer. Ils voudraient qu'on pense comme eux. Mais nous, on ne va pas penser comme eux. On va se contenter de penser comme le monde pensait il y a 200 ans. Et on pense que ça, c'est le christianisme. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. On est juste comme les gens non-croyants, mais avec 200 ans de retard, ou 50 ans, ou 60 ans, ça dépend des époques. Dans la musique, dans l'habillement, dans la philosophie, dans la façon d'être. On est juste en retard, quoi. Ça fait que l'Église, au lieu d'être ce qu'on a dit avant, ça devient un groupe de, j'ose le dire, d'attardés, de gens en retard. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que ceux qui, même à une petite échelle, la musique qui a 30 ans, que moi j'écoutais d'ailleurs, on n'avait pas le droit, mais je l'écoutais, et qui était le diable, c'est la musique qui aujourd'hui passe dans toutes les églises classiques, et puis la musique qui aujourd'hui, ça se fait moins aujourd'hui sur la musique, c'est moins un problème, mais serait celle du diable, c'est celle que dans 30 ans on écoutera dans les églises, et puis à une époque c'était 100 ans de décalage, parce que ça allait moins vite, quoi. La façon de s'habiller aujourd'hui, c'est pareil, et puis dans tous les domaines c'est comme ça. On est juste en retard en pensant que de faire comme faisaient nos parents, c'est le christianisme. Non, le christianisme, c'est être rempli du Saint-Esprit, connaître la vérité, connaître Christ, connaître Jésus-Christ et pouvoir parler la langue des gens qui nous entourent. Moi, j'ai grandi dans des églises, j'ai baigné dedans, mais en fait, il m'a fallu à une époque de ma vie, assez jeune, à l'adolescence, commencer de lire des romans, d'écouter la chanson française, de regarder des films, pour comprendre qui étaient ces gens qui vivaient dehors. Parce que je ne les comprenais pas. Je ne savais pas qui ils étaient. J'étais un étranger. Je les voyais, mais ils étaient bizarres, quoi. Ils disaient des choses. Et en fait, c'est pour ça que c'est dramatique. Du coup, dans les églises, on répond à des questions que les gens ne se posent pas. Et on passe des heures à en parler. C'est très intéressant. Personne ne se pose ces questions-là. D'où la définition d'un pasteur, c'est quelqu'un qui répond à des questions que personne ne se pose. Et en même temps, comme ça, tout le monde est d'accord avec lui, puisque de toute façon, ce dont il parle n'intéresse pas. Puisque de toute façon, les spectateurs ne nous regardent pas. Vous connaissez le... Non, l'Église, elle doit être en phase avec les réalités qui l'entourent. Ça ne veut pas dire qu'on est pareil, mais ça veut dire qu'on y vit au milieu. Jésus a dit, je ne vous appelle pas à sortir de ce fameux monde méchant. Vous n'allez pas vous retirer en communauté fermée sur une montagne avec des murs autour et puis vous habiller tous pareil, faire tous pareil. Non. Vous allez être différent au milieu d'eux. Et c'est ce qu'on a chanté dans ce chant magnifique. Alors en plus, j'étais content. Et c'est un vieux chant. Je l'ai appris, j'avais 11 ans. Tous unis. C'était un de ces chants qu'on chantait à l'époque où j'ai connu ce réveil dont je vous ai parlé, où les gens venaient, et c'est ce qu'on voyait. Les gens venaient et ils disaient, on n'a jamais vu un truc pareil. Des gens qui cèdent, des gens qui s'aiment, des gens qui simplement sont là, et qui disent, bah, c'est différent parce que j'ai rencontré quelqu'un. C'était pas, j'ai adhéré au christianisme, j'ai fait une démarche dans l'éthique morale du christianisme, des valeurs judéo-chrétiennes. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré Jésus-Christ, ça a changé ma vie. Vous voulez que je vous en parle? Vous voulez pas? Ben je vais quand même vous en parler. C'était un peu ça. Pas toujours très sage, mais c'était un peu ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Donc ces gens viennent, et il y a cette chose aussi qui est intéressante. Donc ils constatent, ils parlent notre langue. C'est bien. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Donc ça pose des questions. Et c'est dans ce sens-là que les chrétiens sont appelés à être, l'Église est appelée à être le sel de la terre. Et c'est ce que Samuel a développé aussi courtement en parlant du livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour. Effectivement, nos attitudes, nos actes, ce que nous faisons, interpellent ou devraient ou posent des questions. Par contre, ça ne doit pas s'arrêter là. Cette partie-là, je dirais, culturellement, il y a des choses qui sont difficiles, des choses qui sont plus faciles. La partie donner un bon témoignage culturellement en Suisse, elle est acceptable. Parce que de toute façon, un Suisse chrétien ou pas, il veut donner un bon témoignage. Il faut quand même donner une bonne apparence, c'est fort dans la culture. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une trace du vrai christianisme qui est restée. Hein. Donc, attention, il ne faut pas l'enlever, ce n'est pas mauvais. Simplement, ça ne suffit pas. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Donc, les gens viennent, ils entendent des choses bizarres, ils se posent des questions. Et là, est-ce que les disciples ont dit, alors on rentre dans la chambre et on va prier que la question qui a été suscitée par notre bon témoignage, Dieu y réponde. Est-ce que c'est ça qui s'est passé ? Comment ? Non. Non, pas du tout. Hein. Pierre se lève, suivi des onze, et puis tout l'autre derrière. Et là, il prend la parole et il dit, comprenez ce qui se passe. Et il parle, et il explique. Le témoignage est essentiel, parce qu'effectivement, si vous parlez alors que vos actes disent le contraire, il faut se taire dans ce cas-là. Mais quand le témoignage est là, et je pense qu'il y est dans la plupart des cas, on n'est pas parfait, mais il y a des très bons témoignages partout de la vie des croyants, ça ne suffit pas. Il faut, alors, intelligemment, pas n'importe comment, pas n'importe où, ça dépend aussi de la culture, de l'époque, du moment. Hein. Mais il doit y avoir un moment pour la parole. Parler, pas forcément prêcher, j'aime pas ce mot, hein, mais parler, expliquer, mettre des mots sur les choses. Parce que les gens ne comprennent pas. Et puis, là, Pierre va expliquer. Hein. Et ça n'apparaît pas dans les traductions modernes, mais j'aime beaucoup dans les vieilles traductions, parce qu'elles étaient assez proches du texte original, même si c'était moins compréhensible. Et Pierre, donc, vous savez, quand on vient pour arrêter Jésus, Pierre, il prend son épée et il coupe l'oreille d'un serviteur de Jésus, d'un soldat des Romains qui vient arrêter Jésus. Jésus guérit le gars, il lui remet son oreille. Et quand Pierre commence sa première prédication publique, hein, il dit... Homme de Jérusalem, prêtez l'oreille. Je trouve ça superbe. Et les gens écoutaient parce qu'ils se disaient, ouh, on le connaît lui, hein. Prêtez l'oreille. Mais je vous la rendrai à la fin. Mais il explique et il a de l'humour. Hein, parce que, vous savez, quand le témoignage vécu des chrétiens interpelle les gens, il y a toujours des gens malhonnêtes. Ah, nous y voilà, les méchants malhonnêtes. Pour dire, ils sont bourrés. Ils ont trop bu. C'est une secte. Ils sont bizarres. Ouais, ils disent ça parce qu'ils veulent vos sous. Hein? Il y a toujours des gens comme ça partout. Il y en avait là. Il y en aura toujours. C'est pas grave. Par contre, Pierre répond tranquillement, avec un peu d'humour, j'imagine. Ça apparaît pas vraiment dans le texte. C'est de l'écrit, hein, longtemps après. Mais vous croyez qu'on est tous bourrés ? Vous avez vu l'heure, hein ? On n'a pas commencé encore à cette heure-là. Ça va peut-être arriver, mais plus tard, ce soir, quand on fera la fête pour fêter le début de l'Église. Là, c'est le matin. On est juste au café encore. Pas trop arrosé. Mais, et puis, il va leur expliquer. Ce Jésus, alors en plus, là on ne va pas le faire ce matin, mais ce message de Pierre, il est extraordinaire. Hein. Ce Jésus que vous avez crucifié, lui, il a renié et tout. Mais, ça ne pose aucun problème. Hein. Ce Jésus que vous avez crucifié, il fallait qu'il soit guéri quand même pour dire ça. Hein. Dieu l'a ressuscité. Voilà, il fait un petit message là, je ne sais pas comment il fait. Boum, 1000 personnes qui se font baptiser. Waouh, ça c'est cool. Hein. Comment c'est bien. Hein. Ça faisait du boulot par contre pour ceux qui. C'est comme ça que ça a commencé, et puis là aussi on n'a pas le temps d'en parler, mais pourquoi dans ce cas-là, après ils ont tous habité là, partagé tout, etc. C'était une situation unique. Imaginez que Jérusalem, alors les chiffres sont faux, c'est pour ça que j'ai un problème avec les chiffres, mais l'échelle de grandeur est juste. Si Jérusalem avait 1000 habitants en temps normal, au moment de la Pentecôte, il y avait 20 000 habitants. C'est dans cet ordre-là, en tout cas, 1 pour 20. Ces gens, ils venaient, comme ça a été dit, de tout l'Empire romain. Hein. Voilà, ils étaient tous venus pour cette fête-là. Ils s'en convertissent dans les premières semaines, là, quand l'Église commence, quelques milliers, 5-6 000. Sur ces 5-6 000 qui se convertissent, c'est pas tout Jérusalem, de toute façon, ils n'étaient que 1000 qui s'est converti. Ça veut dire qu'une grande partie de ceux qui s'étaient convertis, c'est des gens qui étaient venus de semaines et de mois. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne rentrent plus chez eux. Il reste. C'est pour ça que quand on dit « j'ai rencontré Christ, ça a changé ma vie », ces gens-là, ils avaient des propriétés, ils avaient des domaines, ils avaient des familles, ils avaient des grands-parents, ils avaient des chiens, des chats, des vaches, des veaux, des terrains. Mais Ça fait des milliers d'années qu'on cherche une réponse à ces questions, qu'on court après ça, on l'a trouvé, on reste ici. Ouais, mais sauf qu'on reste où? Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient? Bon, ben, ils avaient tous un peu de la famille, hein, ils étaient tous parents, hein, ces gens-là. Hein. Donc ils avaient tous un peu de la famille, après les autres ils mettaient des tentes autour, enfin, c'était un camping inorganisé, 5-6 kilomètres autour de Jérusalem. Et puis, ben, ces 5-6 000 personnes, elles décident de rester. C'est-à-dire que la population de la ville de Jérusalem est multipliée par 4. Hein, comme ça, là, en quelques semaines. C'est le bazar le plus complet. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ceux qui sont là et puis qui disent « Mais on ne peut pas quand même rester là chez Tante Esther et puis on est là à manger sa viande, à manger ses nourritures et puis... » Elle est riche, mais quand même. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient un serviteur chez eux. Alors, ça prenait... Hein, 3 mois pour y aller, le gars il allait là-bas, il vendait la moitié de la propriété, prenait l'argent, il revenait, et puis il donnait cet argent aux apôtres, il disait voilà, mettez ça dans le tronc commun, nous on reste ici. C'est ça qui s'est passé à une grande échelle. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a Ananias et Saphira qui ont voulu faire les malins, etc. Bon. Mais vous voyez en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est comment on a rencontré Christ, notre vie n'est plus la même. On change de boulot, on va habiter ailleurs, on n'est plus dans le même pays. On s'en moque parce que ce vide qu'on avait au fond, cette envie d'appartenir à, de trouver, on l'a trouvé. On a rencontré Jésus-Christ et on a découvert l'Église. Et ces gens-là, ceux qui sont restés, forcément, ils ont commencé d'aider, de travailler, ils ne restaient pas toute leur journée à méditer. Hein, ce n'était pas du tout dans le tempérament juif. Hein, Paul, il travaillait, tout le monde, c'était les gens qui travaillaient. C'était comme les Suisses pour ça. Hein, on bosse. Mais ils bossaient sur place. Et puis, ils se retrouvaient tous les jours pour manger ensemble. Ça veut dire qu'une table, normalement, on était 6, on était 12, on se serrait un peu. Mais les 6 en plus avaient amené de l'argent, avaient amené à manger, ils aidaient à débarrasser, ils faisaient la vaisselle. Et puis, pendant les repas, on parlait de ce qui se passait, de la vie de Jésus. Et puis, le soir, comme il n'y avait pas la télé, on allait au temple, et puis on allait écouter les apôtres qui expliquaient encore des choses dessus. Puis, on rentrait à la maison, on remangeait ensemble. C'était ça, l'Église. Et on en a fait un bâtiment... avec des cloches. Des cloches. Des cloches. Hein? Où on va tristement le dimanche matin dans une tenue qu'on aurait honte de porter le reste de la semaine. Avec un air de circonstance. Non, pas ici. Ici, on est la vraie bonne église. Mais on est les seuls, hein? Non, mais amusez-vous. C'est méchant, je ne dis pas. Mais je dis pas, mais quand je remonte la vallée pour venir ici, je croise des gens et je me dis, est-ce que je suis monté dans ma voiture ou dans la voiture à remonter le temps? Ils n'ont pas la tête, ils n'ont pas les habits, ils n'ont pas l'air que je leur connais dans la semaine, parce que je les connais, c'est les gens du village. Hein. Plus elle est grosse sous le bras, mieux c'est. Dans la semaine, ils sont en short, ils sont en vélo, ils sont sympas, ils disent bonjour. C'est dimanche, ils vont à l'église. C'est dramatique. Et après, on dit, pourquoi les gens ne viennent plus dans nos églises? Pourquoi ils ne viennent pas? Ceux qui ont eu la chance de naître dehors, ils ne veulent pas aller dedans. Hein? C'est terrible, c'est terrible. C'est pas ça. Alors après, qu'on utilise un bâtiment comme ça, moi, ça ne me gênerait pas qu'on ait un bâtiment avec une cloche en haut qui fait dong-dong. Hein? C'est joli, c'est bien, il y a un bon écho pour chanter, il y a les fenêtres elles sont colorées, ça ne me gêne pas. J'aurais aucun problème à me retrouver dans ce bâtiment-là. Mais avec ma voix de tous les jours, avec mes habits de tous les jours, avec ma tête de tous les jours, avec mes mots de tous les jours, avec les gens que j'aime, avec des portes ouvertes, avec les bains, c'est pas pratique, mais ça fait du bois de chauffage. Avec non, hein. Et c'est pour ça que... Quand on comprend ce que c'est l'Église, à nous d'inventer les formes qui vont avec. Il y avait une pub comme ça pour une voiture. Hein? À nous d'inventer la vie qui va avec. Et je suis souvent déçu de voir, alors ça c'est plutôt pour les jeunes, hein, quand on se retrouve le mercredi, régulièrement je leur dis, mais à l'âge que vous avez, vous n'avez pas envie de réinventer l'Église, alors pas réinventer des gens qui ont le Saint-Esprit en eux, ça c'est Dieu qui l'a fait, ça sera toujours pareil, hein? La Bible sera toujours la même. Mais la façon de le vivre. Parce que la façon dont on le vit aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas ce que vivait l'Église au début. Hein. C'est les restes de la réforme qui sont eux-mêmes les restes du catholicisme, qui sont eux-mêmes les restes de les restes de... On a les restes des restes des restes des restes. Mais c'est, si on veut être biblique, alors ça ressemblait un peu à ça. Et puis en plus, on voit que les autres églises qui sont nées après ne ressemblaient pas à celles de Jérusalem. Parce qu'elles n'étaient pas dans le même contexte. Pourquoi les autres ne vendaient pas leurs champs pour mettre tout en commun? Tout simplement parce que dans l'église de Corinthe, il n'y avait que des gens qui habitaient Corinthe. Ils n'avaient pas à déménager, ils vivaient là, donc ils n'avaient pas à vendre leurs champs pour les donner à quelqu'un, ils n'en avaient pas besoin. Vous comprenez? C'est juste que l'église, elle peut être vécue n'importe où. Prenez 5 ou 6 chrétiens remplis du Saint-Esprit, vous les jetez dans le désert, en Amazonie, dans une ville à New York, en Suisse, en France, en Espagne, au Portugal, sur un bateau dans la mer, c'est l'église. Quelques croyants remplis du Saint-Esprit. Mais s'ils sont sur une île déserte, s'ils sont à New York, s'ils sont ici, s'ils sont ailleurs, ils vont s'organiser pour la vivre différemment. Mais on a le droit de tout dans les formes. Pas pour choquer, pas pour changer, pas pour être intéressant, pas pour être mieux que les autres. Juste pour que la vie puisse s'exprimer, pour qu'on puisse le vivre. Et c'est une chose qui me réjouit beaucoup dans ce qu'on vit ensemble, parce qu'on a gardé ces murs, ils sont sympas, ils sont bien, ils sont en plus en couleur. Peut-être un jour, ça sera ailleurs, c'est pas grave. Mais c'est pas ça la question. C'était pas de changer de mur qu'il fallait. Mais c'est changer notre compréhension de ce qu'est l'Église. Et puis, c'est une communauté de gens qui ont reçu le Saint-Esprit, qui se rassemblent, ici, là, ailleurs, à certains moments, ceux qu'ils ont choisis ensemble, pour partager cette vie. Et puis, de temps en temps, comme Pierre, il y en a un qui parle un peu plus que les autres. Malheureusement, il se lève et il parle, mais à un moment, il s'arrête. Et c'est maintenant. Seigneur, merci pour ton invention de l'Église. Merci pour... parce que tu n'as pas honte de nous, malgré toutes nos erreurs. Et on te prie que tu nous donnes l'intelligence spirituelle, la liberté, pour toujours la garder et la réinventer. Garder ce qui en fait la force et l'essentiel et toujours réadapter les formes et ce qui est autour pour qu'on puisse la vivre. Que nous sachions changer nos vêtements avec les changements de saison. Et puis nous restons tes enfants. Bénis ce week-end, que ce soit vraiment une célébration à ce que tu as fait, à cette idée extraordinaire de la communauté des croyants. Et puis qu'on puisse continuer de progresser ensemble, de se faire du bien, mais aussi d'être compréhensible pour ceux qui nous entourent, qu'ils puissent entendre parler la langue de leur cœur, et que tu puisses les toucher, et que nous sachions mettre des mots pour répondre à leurs questions. Merci Seigneur pour tout ça.